Vous écoutez RTL.
Toujours avec vous.
Ces gentilles petites bestioles.
Jusqu'à 22h.
Fabriquent d'abord de la cire.
RTL.
Elles y font des alvéoles. Doux petits nids pour bien dormir.
Sidonie Bonnec. Thomas Hugues.
Les abeilles.
La curiosité est un vilain défaut.
Vous faites bien Bourville pour nous mettre dans l'ambiance. Et pourtant, les abeilles sont en danger. De plus en plus de messages d'alerte envoyés d'un peu partout en France. C'est pour cela qu'on a voulu inviter un apiculteur ce soir. Bonsoir Henri Clément.
Bonsoir.
Bienvenue. Juste pour vous situer, vous aviez combien de ruches?
Aujourd'hui, j'ai autour de 250-300 ruches en Lozère, dans le Gard, dans l'Hérault et dans l'Aude.
D'accord.
Et j'étais dans l'Aude dimanche, elle travaillait, elle rentrait d'une hectare de romarin, espérant que la saison sera favorable.
Oh, ça donne envie de goûter ce miel, ça,
il est fabuleux.
Hectare de romarin.
Il était déjà connu à l'époque romaine.
C'est vrai.
Le miel de Narbonne était vendu à Rome et était très prisé par les grandes familles princières de Rome à l'époque romaine.
Alors justement, on discutait là pendant le 10 des Stranglers et vous nous disiez à propos du thème précédent, le roi soleil, que la reine des abeilles, on appelait ça...
Le roi.
Jusqu'à quand?
Oh, jusqu'à la fin du 18e, on ne pouvait pas imaginer que ce soit un individu de sexe féminin qui dirige la colonie, et donc on appelait ça le roi.
Mais alors justement, ça a quel sexe, le roi ou la reine des abeilles?
La reine, c'est une femelle, c'est elle qui pond les œufs dans la ruche, et c'est son principal travail. Vous vous rendez compte qu'au printemps, elle peut pondre entre 1500 et 2000 œufs par jour. Donc elle pond sans arrêt, et c'est elle qui assure le renouvellement continue de la colonie, parce qu'en fait, les abeilles vivent très peu de temps au printemps, 3-4 semaines. Et donc, quand vous ouvrez une ruche au mois de mars et que vous la réouvrez au mois de juin, à part la reine, tous les individus ont été renouvelés.
Henri Clément, les apiculteurs du Nord-Pas-de-Calais viennent d'alerter les pouvoirs publics après la découverte de plusieurs essaims complètement détruits. Vous êtes porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé dans cette région?
Il n'y a pas que dans cette région. On a des remontées de plusieurs régions de France où, effectivement, il y a de très fortes mortalités. On est en train de mener une enquête pour savoir précisément quelle peut être la cause de ces mortalités. Vraisemblablement, il y a un problème environnemental autour, c'est-à-dire présence de pesticides qui tuent les colonies. Effectivement, d'ailleurs, le taux de mortalité aujourd'hui, alors qu'il était de 5% il y a 25 ans, est de 30% par an, reconnu par les instances européennes. L'agence européenne a reconnu qu'effectivement, on était à 30% par an. Et on a des taux de mortalité, comme vous l'indiquez, dans l'Inde, de plus de 50%, voire 80%. On a eu le cas des Pyrénées-Orientales, de l'Ariège, où on était à 80% de pertes, c'est-à-dire 3000 ruches ou 4000 qui ont été mortes en quelques mois.
C'est-à-dire, que découvre l'apiculteur quand il arrive
C'est un crève-cœur, c'est-à-dire qu'en fait, avant, on était serein. Et quand on arrivait au printemps, au début du printemps, pour ouvrir les ruches, pour voir comment elles avaient passé l'hiver, on était serein. On avait 3-4 ruches de temps en temps, mais c'était pas... Aujourd'hui, on peut trouver des ruchers où 90% des abeilles, des ruches sont mortes. Et donc, c'est dramatique, parce que c'est déjà en termes de... Parce que l'apiculture, c'est une passion. En termes humains, c'est dramatique. En termes économiques, c'est dramatique. Et on a beaucoup d'apiculteurs, de collègues apiculteurs, qui ont de grandes difficultés à surmonter ces mortalités qui sont très, très importantes.
Ça veut dire, Henri Clément, que quand ces abeilles, elles meurent pas du jour au lendemain. Elles tombent malades, c'est des ruches qui tombent malades.
C'est pas obligatoirement des ruches malades, ce sont des ruches qui sont décimées. Ça peut être dû à des pesticides, ça peut être dû à des maladies, comme par exemple la nosema, c'est à partir d'un champignon. C'est comme un peu nous, on a tous des cellules cancéreuses, c'est pas pour ça qu'on a le cancer, heureusement. Mais quand la ruche est soumise à un stress, et notamment à une intoxication, ces maladies flambent et détruisent les colonies. Donc les pesticides sont la première des causes. Il n'y a pas que ça, il peut y avoir le varroa. S'il est maltraité, c'est un petit acarien qui mange les larves d'abeilles, et qui peut être dramatique aussi pour les colonies d'abeilles. Mais les pesticides, dans les différentes causes, sont quand même la cause prépondérante.
Henri Clément, je lisais dans le Parisien le mois dernier que sur l'île d'Ouessant, les abeilles vivent sans pression chimique.
Oui.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de pesticides.
Tout à fait. Et pas de varroa.
Et on voit la différence.
C'est-à-dire qu'ils sont restés à 5% de pertes. Alors que dans le reste de notre territoire, eh ben, on est, je vous dis, en moyenne autour de 30%, avec des pointes dans les zones de grande culture où il y a du colza, du maïs, du tournesol, une culture intensive. Là, on peut avoir jusqu'à 80% de pertes.
Mais qu'est-ce qu'ils disent les producteurs de pesticides quand vous arrivez avec ces chiffres?
Bah, vous savez, ils disent, c'est un très gros lobby, hein, c'est un lobby très puissant. Il y a de très grosses sommes en jeu. Nous, au niveau de l'UNAF, on s'est battu depuis plus de 15-17 ans sur ces néonicotinoïdes.
Au début, c'est le terme technique.
Technique, mais c'est le fameux gaucho, le recruiseur, etc. Mmh. En 2002, le ministère de l'Agriculture a réalisé un travail par des scientifiques, des toxicologues, qui a conclu effectivement la dangerosité de ces molécules. Il a fallu attendre 2012 pour que l'agence européenne reconnaisse que l'homologation n'était pas suffisamment rigoureuse et 2013 pour que les ministres de l'agriculture de la communauté retirent 4 molécules parmi cette famille de pesticides sur des plantes visitées par les abeilles. Uniquement les plantes visitées par les abeilles. C'est une demi-mesure, c'est une reconnaissance de leur toxicité, mais c'est loin d'être suffisant.
Les abeilles sont en danger parmi les causes de leur mortalité. Il y a aussi la recrudescence des frelons asiatiques. Pourquoi sont-ils dévastateurs? Comment s'en débarrasser? Henri Clément, notre apiculteur, nous dit tout dans un instant sur RTL.
Soyez fiers d'être curieux.
Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
Curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce ne serait pas la musique du miel et les abeilles, ça? C'est André Facetta, hein, notre réalisateur, il s'est fait plaisir. Vous regardiez cette série, André Facetta? Allez, ce soir dans la curiosité, on vous dit tout sur les abeilles. Depuis des mois, les apiculteurs alertent sur l'hécatombe qui frappe les butineuses. Notre invité est l'un de ces apiculteurs, Henri Clément. Vous publiez L'apiculture pour les nuls chez First Edition. Mmh. Et vous racontez dans ce livre comment le frelon asiatique est apparu en France. C'était quand?
C'était il y a 7-8 ans. Mmh. Il est arrivé dans la région d'Agen, dans des poteries chinoises.
Et dans des quoi?
Dans des poteries qui étaient importées de Chine. Il y a une femelle fécondée qui est arrivée dans une poterie chinoise.
Qui a survécu au voyage.
Qui a survécu au voyage. Comme elle était fécondée avec le printemps, elle a commencé à faire un nid. Elle s'est très très bien acclimatée au climat du Lot-et-Garonne. Et elle s'est reproduite. Et en moins de 10 ans, les descendants de cette femelle ont colonisé toute la France. Le frelon est passé en Espagne, il est passé en Italie, il est passé en Belgique. Et il ne faut pas se voiler la face, il va coloniser toute l'Europe.
Mais c'est fascinant ce que vous nous racontez. Comment on peut être aussi précis, aussi sûr?
Parce que les scientifiques ont des études génétiques, c'est la même descendance et c'est la même reine qui, de frelon qui a voilà, envahi.
Pourquoi le frelon asiatique est dangereux pour l'abeille?
Parce qu'en fait, le frelon, déjà, c'est un insecte qui a fait des nids extrêmement impressionnants.
En taille, vous voulez
en
dire?
En taille, oui. C'est-à-dire que vous avez des nids qui peuvent atteindre 80 cm de hauteur et 60 cm de diamètre. C'est vraiment impressionnant. Et à partir du mois d'août, quand il y a moins de fleurs, etc., c'est dans le cycle du frelon, c'est le moment où il y a la reproduction du nid de frelon. Donc c'est là où apparaissent les nouvelles reines qui vont passer l'hiver. Et il y a un fort besoin de protéines. Et pour apporter ces protéines au nid, les frelons se nourrissent en particulier à peu près à 50% d'abeilles et d'autres insectes. Et donc ils se mettent à l'entrée des ruches, ils capturent une abeille, ils la coupent en trois, ils prennent que le thorax, qui est la partie où il y a la protéine, et ils le ramènent à la ruche. C'est très gore, mais c'est effrayant parce qu'en fait, il suffit de 5 à 6 ou 7 frelons devant une ruche pour que la ruche soit quasiment condamnée.
Pourquoi? Parce que les abeilles sortir?
Les abeilles sont stressées, elles ne sortent plus. Donc, elles ne rentrent pas de pollen et de nectar, qui sont les éléments indispensables à la ponte de la reine, etc. Les frelons continuent quand même à faire de la prédation, puisqu'il y a toujours quelques abeilles qui sont un peu plus courageuses, qui essaient de partir. Et rapidement, la colonie décline.
C'est une guerre que vous nous racontez.
Ouais, c'est un fait divers chez les insectes.
C'est ahurissant.
Est-ce qu'ils sont dangereux pour l'homme, ces frelons asiatiques?
Alors, ils ne sont pas dangereux tant qu'on ne les touche pas. tant qu'on ne touche pas, on le nie. Mmh. Mais dans le sud-ouest, il y a effectivement il y a eu des morts. Parce que si vous avez par malheur, il y a par exemple un gars qui passait sa tondeuse à gazon et il y avait une niche de à chien qui était abandonnée, les frelons s'étaient mis dans la niche à chien, il a heurté la niche à chien, il s'est fait piquer et il en est mort. Un autre qui faisait des grillades, parce qu'en fait il s'attaque aussi à tout ce qui est viande, etc.
Les protéines.
Ils aiment les protéines, oui. Ouais.
Et par exemple, dans la région de Bordeaux, sur les marchés, les gens qui font des poissons ont des problèmes parce que les frelons viennent pour essayer de prendre de la chair de poisson.
Il y a un antidote, quelque chose, ou si on est piqué, on meurt?
Ben, c'est comme tous les hyménoptères, il faut de suite prendre des antihistaminiques pour arriver à réagir. Mais ça ne touche pas que les apiculteurs, ça touche aussi les producteurs de fruits, etc. Dans le Lot-et-Garonne, on parlait tout à l'heure du Lot-et-Garonne et d'Agen, la mutualité sociale agricole a observé que depuis l'arrivée du frelon, les incidents des agriculteurs avaient augmenté, je crois, de 12 ou 15% depuis qu'il était là. Parce que, par exemple, ils ramassent les pruneaux d'Agen avec des vibreurs. Et si, par hasard, il y a un nid dedans, il y a des problèmes.
Est-ce qu'il y a des solutions
Alors, il y a des solutions.
Pour empêcher cet envahisseur,
oui, parce que
c'est un envahisseur.
C'est un envahisseur. Alors, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de réaction au niveau des pouvoirs publics. Ça, on le déplore beaucoup. Ils savaient que c'était un vrai problème, mais ils faisaient l'autruche, c'est assez courant. Mm-hmm. Et là, dans notre pays. Et effectivement, il faut faire du piégeage sélectif, parce qu'il n'est pas question de tuer d'autres insectes, pollinisateurs, etc., au printemps. Et puis, de protéger les abeilles, de détruire les nids quand on arrive à les trouver, parce que ce n'est pas toujours facile.
Ça veut dire quoi, du piégeage sélectif ?
C'est-à-dire, à partir de maintenant, là, même un peu plus tôt, dès que la température monte, on met autour des ruches des pièges qui permettent aux autres insectes de s'échapper, et on attrape les frelons. Et quand il y a des frelons qui sont pris dans ces pièges-là, ils dégagent des phéromones et ça attire d'autres frelons et il n'y a plus d'autres insectes qui viennent dedans. Voilà. Mmh. Et chaque fois qu'on capture une femelle fécondée, c'est un nid qu'on élimine. Donc c'est quand même très important.
On va continuer de se passionner grâce à vous, Henri Clément, pour ce monde des abeilles avec une vision un peu plus positive. On va vous expliquer comment devenir apiculteur. Voilà, des bons conseils.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Posant par cent et par mille,
jusqu'à 22h,
sur les fleurs qui s'ouvrent à peine,
RTL,
elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les abeilles.
La curiosité est un vilain défaut. Okay,
c'est moi qui essaye.
Alors, grâce à Bourville, nous avons un petit peu une recette. Hein, on découvre comment les abeilles travaillent. On en parle plus sérieusement avec Henri Clément, notre invité qui est apiculteur et qui nous parle notamment des difficultés rencontrées par son métier, par les apiculteurs. Et pas seulement parce que vous publiez l'apiculture pour les nuls chez First Edition. Et on est quand même pas mal à se demander, mais est-ce que si on décide de faire notre propre miel, est-ce qu'on peut le faire, qu'on habite à la campagne ou à la ville, par exemple?
C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Simplement, être apiculteur, ça ne consiste pas à prendre une ruche, à la poser, y mettre des abeilles et attendre qu'elle donne du miel.
Oh, bah ça ne m'intéresse pas, alors.
Il y a un vrai savoir-faire à acquérir, il y a des tours de main, il y a une
par
connaissance.
Exemple, par exemple, quand on...
Ben, on n'ouvre pas une ruche, si vous préférez, comme on ouvre une valise. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre des précautions, il faut enfumer les abeilles.
C'est quoi enfumer les abeilles?
Alors, la fumée, c'est l'outil majeur de l'apiculteur. C'est-à-dire qu'en envoyant de la fumée délicatement, dans la ruche, on coupe les circuits de communication à l'intérieur de la ruche. Et donc, les abeilles qui sont plus ou moins isolées, ne sont pas agressives. Donc, on peut les visiter de manière sereine et calme. Et donc, ça, c'est la première des choses, par exemple. Donc, on les avertit quand on ouvre une ruche. Avant de visiter une ruche, on enfume légèrement, on attend un petit peu, et puis on enlève le toit, le couvre-cadre, et on enfume un petit peu, et on soulève délicatement les cadres pour pouvoir observer le développement de la colonie.
Mais c'est beaucoup de travail, ça. On peut faire ça, nous, si
oui,
on décide de faire du miel.
Il y a de plus en plus, de Français qui se mettent à l'apiculture. On a un changement de la population d'apiculteurs. Avant, c'était patrimonial dans les campagnes, tout le monde avait des ruches, etc. Avec la dépopulation, l'exode rural, tout cela a diminué. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de nos concitoyens qui s'initient à l'apiculture, véritablement, qui apprennent à entretenir une ruche. Et c'est pour nous un vrai bonheur. On le voit, les ruches et écoles, par exemple, il y en a dans tous les départements. Vous pouvez vous inscrire. Mais là, ça, c'est presque trop tard pour la saison 2015. Mais en quelques, en 5, 6, 7, 10 journées, vous apprenez, pas à devenir apiculteur professionnel, loin de là, mais à pouvoir vous occuper de votre ruche pour faire du miel.
Vous dites que c'est trop tard pour la saison 2015, Henri Clément. Pourquoi ? Parce que là, si on veut récolter du miel...
Toutes les sessions sont complètes.
Ah, d'accord. Je croyais que c'était trop tard pour installer la ruche dans le jardin.
Non, pas du tout. Mais les sessions... Je crois que la Société Centrale à Paris, ils prennent déjà des inscriptions pour 2016 ou 2017.
Ah, donc ça intéresse vraiment de plus en plus de monde.
C'est ahurissant.
Et en ville, ça marche aussi ?
En ville, de plus en plus. Donc, on peut... c'est plus difficile d'installer une ruche en ville. Il faut quand même soit l'installer dans sa maison de campagne, soit avoir une terrasse avec des voies. Il y a quelques précautions à prendre. Oui. Mais ça peut tout à fait s'envisager. Alors, avec des précautions.
J'ai une question qui est peut-être totalement idiote.
Parce que j'en ai une deuxième idiote après.
Est-ce qu'en ville, le miel est bon ? Parce qu'il y a de la pollution.
Le miel est très bon. Et tout à fait bon. Et quand on le fait analyser, il peut y avoir des traces, parce que les analyses sont de plus en plus fines. Mmh. On peut retrouver toutes sortes de résidus à l'état de traces partout, dans toute notre alimentation, dans l'air, etc. Mais le miel de ville reste tout à fait consommable. Il est tout à fait aussi pur que le miel des Pyrénées ou que des Alpes.
Ça veut dire que l'abeille est un filtre naturel, ouais,
exactement,
d'une certaine façon.
Exactement. Et par contre, et ça, c'est quand même un signal d'alarme. C'est pour ça qu'on a lancé un programme, nous, à l'UNAF, qui s'appelle Abeilles Sentinelle de l'environnement, on s'aperçoit que les ruches
L'Union nationale des apiculteurs de France.
Voilà, de l'apiculture française. Voilà. On s'aperçoit que dans les grandes métropoles, les abeilles se portent mieux que dans les zones de grande culture où elles sont exposées aux pesticides. Et on le voit en France, on le voit en Allemagne, à Berlin, elles se portent mieux que dans les grandes zones agricoles allemandes, etc. Et ça, ça ne veut pas dire que l'avenir de l'apiculture soit en ville, loin de là. Simplement, c'est un signal d'alarme pour les pouvoirs publics, pour dire, attendez, il y a quand même un paradoxe, et il est grand temps de prendre des mesures pour sauvegarder les abeilles.
Henri Clément, j'ai une question de citadine. Donc j'ai acheté ma ruche, j'ai réussi à enfumer...
Il faut acheter les abeilles.
Ah oui, il faut choisir les abeilles, pas n'importe lesquelles.
Et oui, surtout en trouver, ce qui n'est pas facile.
Je les achète à qui, en fait, les abeilles ?
À des apiculteurs.
Bon, d'accord, je vais garder votre numéro.
Moi, c'est drôle parce que, alors là, vraiment le béotien absolu.
Attends, j'ai une autre question encore.
Ouais, je pensais qu'on posait la ruche et que.
Qu'on partait travailler.
On faisait des petits signes comme ça pour que les abeilles viennent. Non. Donc, on achète la ruche avec les abeilles dedans, c'est ça ?
Non, mais vous vous rendez compte, on parlait des mortalités. Oui. On perd 30%. On a à peu près 1 200 000 ruches. Ça veut dire qu'il y a plus de 300 000 colonies qui meurent chaque année en France et que les apiculteurs reconstituent. Donc, il y a une pénurie d'essaims, de rennes, etc. Et donc là, actuellement, vous voulez acheter 150 ou 200 essaims, vous ne les trouverez pas pour la saison, pas avant le mois de mai ou juin, que les apiculteurs en fassent. Mm-hmm. Donc, c'est très compliqué, c'est pour ça qu'il faut prendre ces précautions, faire une formation. Avec la formation, vous apprendrez à avoir des contacts avec les apiculteurs pour trouver des rennes, des essaims, etc.
Mais c'est ça, parce qu'on ne peut pas acheter un pack d'abeilles, quoi. Il faut choisir des rennes, des ouvrières. C'est ça, il y a une grande hiérarchie dans la ruche.
Ah oui, non, mais là, vous achetez une colonie, c'est-à-dire une renne avec des ouvrières, et vous l'installez dans votre ruche, et à partir de là, elle se développe toute seule. Mais l'avantage de l'abeille, contrairement à certains animaux domestiques, à tous les autres animaux, vous avez un chien, un chat, il faut le sortir, le nourrir, etc. Les abeilles, elles se débrouillent.
Elles sont indépendantes.
Elles sont tranquilles. Dans votre livre, L'apiculture pour les nuls, publié chez First Edition, Henri Clément, j'ai découvert plein de termes que je ne connaissais pas forcément. La planche d'envol, c'est quoi la planche d'envol ?
C'est la piste d'atterrissage des abeilles. C'est-à-dire que quand vous savez que le vol de l'abeille, c'est fabuleux. Airbus n'a pas fait aussi bien. C'est-à-dire que l'abeille est dotée de deux paires d'ailes. Et quand elle s'envole, il y a des crochets microscopiques qui fixent les deux ailes ensemble pour n'en faire qu'une, pour gagner en portabilité. Et donc, c'est un formidable avion. Et quand elles atterrissent, les crochets se débloquent. Mm-hmm. Elle gagne en maniabilité, elle se pose.
Ça, c'est la planche d'envol.
Voilà. Une paire d'ailes de secours aussi ?
Non, il n'y a pas d'ailes de secours, mais franchement, c'est quand même assez fabuleux.
Il n'y a pas de train d'atterrissage,
ça va.
Blague. Le couvain, c'est quoi ? Le cœur de la ruche, c'est ça ?
C'est le cœur de la ruche, c'est l'ensemble des larves et des nymphes, donc des futures abeilles, qui est pondu par la reine. Et il faut savoir que dans une ruche, donc il y a une reine, il y a les ouvrières et les faux bourdons, ce sont les mâles. qui apparaissent au printemps. Ils ne sont pas là tout le temps.
Ils font quoi pendant ce temps-là?
Alors, être faubourdant chez les abeilles, c'est pas obligatoirement un sort enviable, parce qu'en fait, ils apparaissent au printemps. Ils ne piquent pas. Donc, c'est pour ça, quand vous allez voir un apiculteur, c'est un petit gros nounours,
le caresser,
faubourdant. Moi, je le prends dans la main, je le mets. Les gens, non, il ne pique pas, il ne peut pas piquer. Il peut passer de ruche en ruche, il ne travaille pas, il se fait nourrir. Donc, c'est vraiment la vie de Patachon. Et il a simplement comme objectif de féconder les reines vierges.
Quand même.
Ça, voilà. Mais il y a forte concurrence et si il advient à féconder une reine vierge, il tombe de 10 mètres en laissant son appareil génital et une partie de son tube digestif, etc. et il meurt. Et donc, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à féconder une reine vierge. Donc, ils continuent à vivre au mois de mai, juin, juillet. Mais quand la saison devient plus difficile, qu'il n'y a plus de mielée, de fleurs, etc., les ouvrières disent, attendez, c'est bouche inutile, ça commence à bien faire. Et donc, elle les massacre.
Ah oui, c'est moins drôle la fin.
C'est moins drôle, mais c'est la réalité.
Ça commençait bien, il devait féconder la reine et puis poum, il finit massacré. On conclut, tiens, d'un mot sur le miel, votre miel préféré, est-ce qu'il y en a un d'abord?
Ah bien sûr, oui, on a des miels. On a la chance en France d'avoir une... Comme il y a énormément de fromages, il y a autant de miel, avec la diversité de régions, de sols, de climats, etc. Et on a, moi, il va bientôt sortir chez Rustica un guide des miels que j'avais sorti il y a quelques années, qui va être réédité. On a 40 ou 50 sortes de miel en France. Moi, j'adore, par exemple, un miel de bruyère blanche, un miel de romarin, un miel de framboisier sauvage. Ça fait 4 ans que je n'en ai pas récolté. J'aimerais bien récolter. C'est fabuleux, c'est doux, c'est floral, c'est merveilleux.
Ouais, c'est génial. Et en vous écoutant, on est en train de se promener là dans
les Cévennes.
Dans les Cévennes.
On va faire une petite tisane avec une cuillère de miel de romarin. Ouais, c'est super agréable.
Merci beaucoup Henri Clément.
Merci
je rappelle
vous.
Que vous êtes le porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française et que votre livre est publié chez First Edition, L'apiculture pour les nuls.
Vous écoutez RTL.